Deux mois plus tard. C'était la fin juin. Le soir tombait sur Verbier, il faisait doux et l'air fleurait bon l'été. Le ciel virait doucement au bleu foncé et, dans les pâturages, les insectes de la nuit s'étaient déjà mis à chanter. Le bar du palace de Verbier était désert. Le début de la saison d'été était plutôt calme. Le téléphone du comptoir sonna soudain et l'employé se jeta sur le combiné, avide de recevoir enfin une commande. Il fut déçu d'entendre que ce n'était pas un client. « Un instant, je vous prie », indiqua-t-il poliment à son interlocutrice avant de quitter son poste pour aller chercher Lev, qui officiait comme portier à l'entrée de l'hôtel. « Téléphone pour toi, Lev !» lui annonça l'employé du bar. « Pour moi ?» s'étonna le jeune homme. Il suivit docilement son collègue jusqu'au bar et s'empara du combiné posé sur le comptoir. « Allô ?» Pour toute réponse, il entendit un pleur étouffé. « Allô ?» demanda-t-il encore. « Qui est à l'appareil ?» Une voix qu'il reconnut aussitôt murmura
« Viens me chercher, je t'en supplie, viens me chercher. »
« Anastasia ?»«
Lev, il faut que tu me sauves. Il va finir par me tuer. »
« Que se passe-t-il, Anastasia ?»«
Je t'en supplie, viens. Je n'ai personne d'autre que toi. »
« Où es-tu ?»«
À Bruxelles. »
Sans vraiment saisir de quoi il retournait exactement, Lev comprit que la situation était grave. Il estima rapidement la distance qui le séparait de la capitale belge et lui dit alors « Je peux trouver une voiture et partir immédiatement. Si je roule bien, je devrais être là à l'aube. » Ils convinrent de se retrouver à 6 heures du matin devant l'immeuble où vivait Klaus. Pas plus tard. Il devait être loin avant que Klaus ne se réveille. « Enfuis-toi maintenant !» lui enjoignit Lev. « Va te réfugier quelque part, je t'y rejoindrai. »«
M'enfuir pour aller où ? Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Je ne peux même pas louer la plus miteuse des chambres d'hôtel. »«
J'arrive !» lui promit alors Lev. « Ne t'inquiète pas, j'arrive. » Il nota l'adresse, une rue à Ixelles. Après avoir accroché, il se précipita dans le bureau de M. Rose qui veillait pour étudier les livres de comptabilité. Lev lui expliqua rapidement la situation. Ami en grand danger. Besoin d'une voiture pour aller la chercher. « C'est la fille du bal ?» interrogea M. Rose. « Oui, monsieur. Où est-elle ? À Bruxelles. »
« Si je comprends bien, tu veux que je te prête une voiture et que je te donne un jour de congé pour que tu partes au beau milieu de la nuit jusqu'en Belgique. »«
Exactement, monsieur Rose. » Le directeur s'amusa de l'aplomb de Lev. Il s'efforça néanmoins de garder un ton sévère.
« Tu comprendras que je ne peux pas te faire une faveur pareille, Lev. Surtout après ton incartade au bal de la banque Ebesner. »
Lev baissa la tête. « Je sais que je ne suis pas en odeur de sainteté, » insista-t-il, « mais là, c'est une situation très grave. » M. Rose ouvrit le tiroir central de son bureau. Il en sortit un papier à en-tête et se mit à griffonner dessus.
« Je vais laisser ce mot au directeur du personnel qui le trouvera demain matin à son arrivée ici. Je lui indique que, vu le peu de clients, je t'ai réquisitionné pour 48 heures afin de me rendre un service important. »
Sa note terminée, M. Rose se leva de sa chaise, son papier à la main. Il attrapa sa mallette et éteignit la lumière de la pièce. Il ajouta alors «
Quant à moi, je m'en vais à présent, en oubliant les clés de ma voiture dans le tiroir de mon bureau. Dans 48 heures, c'est-à-dire après-demain soir, ma voiture sera de retour ici et toi avec, Lev. Je ne veux pas d'histoire, pas de petite copine dans ta chambre. Tu connais le règlement. »
« Merci, monsieur Rose, » murmura Lev, les yeux pleins de gratitude. « Je ne sais pas comment vous remercier. »
« Si tu veux me remercier, réfléchis à ma proposition de te former pour que tu puisses devenir un jour le directeur de cet hôtel. Le temps va passer et il viendra un jour où je devrai désigner mon successeur. Je voudrais transmettre le palace, pas le vendre au premier venu qui en fera un hôtel quelconque. Avec toi, je sais que l'esprit de ces lieux sera perpétué.
J'y songerai, » promit Lev. Avant de partir pour Bruxelles, Lev s'arrêta chez son père, au centre du village de Verbier, pour le prévenir.
« Va, mon fils courageux, » lui dit seul avec fierté. « Fais attention à toi et sois prudent.
Ne t'en fais pas, je suis de retour dans 48 heures maximum. Je t'appellerai depuis Bruxelles. » Sol regarda son fils avec admiration. « Qu'y a-t-il ? » demanda Lev qui décela dans les yeux de son père une étrange lueur.
« Rien, mon garçon. Je me dis simplement, en voyant ton visage, ton charisme, la façon de te tenir, que tu pourrais être un grand acteur, un bien plus grand artiste que je ne le serai jamais.
Je t'ai appris tout ce que je savais. Pourquoi ne rejoindrais-tu pas une troupe de comédiens, au fond ? Après une hésitation, Lev dit « Monsieur Rose dit que je pourrais devenir directeur de l'hôtel, faire une carrière. » Sol fronça les sourcils.
« Directeur, quelle idée ridicule !»«
Je voudrais passer de l'autre côté de la barrière, » plaida Lev. « Je voudrais être du côté des servis, plus du côté des servants. »
« Directeur,
continua de s'offusquer le père.
« On est des artistes, nous. Une grande lignée d'artistes. »«
Pas vraiment une grande lignée d'artistes, papa, » osa Lev.
« Pas une grande lignée d'artistes, »
s'étrangla le père. « Mais tu ne joues même plus. Tu m'as appris tout ce que tu savais, très bien. Mais tu ne donnes plus de spectacle. Tu n'es plus toi-même un artiste.
Quand on est un artiste pour toujours. On l'a dans le sang. » Et tu l'as dans ton sang, que tu le veuilles ou non. Va-t'en maintenant.
J'espère que tu auras changé de ton à ton retour. D'abord ta mère qui s'en va, puis toi qui veux me tourner le dos.
Qu'ai-je donc fait à la vie pour être ainsi puni? Directeur.
Quelle drôle d'idée, vraiment.
Ne te laisse pas impressionner par tous ces gens.
Lev roula toute la nuit et arriva à Bruxelles à 6 heures du matin. Il trouva sans difficulté l'adresse indiquée par Anastasia. Elle l'attendait en bas de l'immeuble, avec pour tout bagage un modeste sac en toile. Elle laissait tout derrière elle. Il sortit de voiture, elle se jeta dans ses bras. Elle se cramponna à lui. Elle avait beaucoup maigri. « Que se passe-t-il ? » « Partons, » se plia-t-elle pour toute réponse. « Je veux savoir ce qui se passe. »«
Oh,
des coups, Lev, » murmura Anastasia.
« Des coups sans cesse. Klaus me frappe pour un oui ou pour un non, je n'en peux plus. »
Lev contempla ce magnifique petit bout de femme aux yeux tristes. Il décida que Klaus ne s'en tirerait pas comme ça. « Attends-moi ici, » ordonna-t-il à Anastasia. « Je reviens. »«
Non, Lev, ne fais pas ça !»
Mais Lev ne l'écouta pas et se précipita à l'intérieur de l'immeuble. Elle le poursuivit dans la cage d'escalier.
« Ne fais pas ça, je t'en supplie, Lev !»
s'écria-t-elle.
« Klaus va t'étriper !»
Lev ne l'écouta pas et monta les étages, inspectant chaque nom sur les portes, et trouva finalement celui qu'il cherchait. Klaus Vanderbroek. Il tambourina furieusement contre la porte jusqu'à ce que Klaus ouvre, en caleçon, les yeux encore mi-clos, cueillis dans son sommeil. Il ne reconnut même pas le visiteur qui lui envoya aussitôt un prodigieux coup de poing au visage. Klaus valsa à travers le hall d'entrée de son appartement avant de s'écrouler au sol. Lev s'approcha de lui et pointa dans sa direction un doigt menaçant. «
Ça t'excite de taper sur des femmes, Klaus ? Je vais te donner un bon conseil. Si tu veux vivre... » Reste à jamais loin d'Anastasia. Ne la recontacte pas, efface-la de ta mémoire. Si je te revois, ce sera pour te tuer.
Ce matin-là, dans le jour naissant, Lev et Anastasia se retrouvèrent. Il l'emmena prendre le petit déjeuner dans un petit café du centre de Bruxelles. Il la regarda dévorer d'épaisses tranches de pain beurré et reprendre vie peu à peu. Elle lui raconta les mois d'enfer avec Klaus, les crises de jalousie, les brimades, la violence. Klaus, toujours si gentil en société, attentionné et souriant devant les autres, est si cruel et mauvais dans l'intimité. Il lui avait interdit de travailler, lui dictait sa conduite, jusqu'à la contrôler totalement. « Prisonnière, la porte grand ouverte », explique Anastasia à Lev, des sanglots dans la gorge. « On voudrait tellement s'enfuir, mais on ne sait pas comment s'en aller. » Elle avait d'abord essayé d'en parler à sa sœur, Irina, mais celle-ci était trop occupée avec sa nouvelle vie. Le mariage, la villa. Cet été, 2 semaines dans un palace en Sardaigne. Vite faire des enfants. Pas le temps pour papoter. Elle avait alors voulu s'en ouvrir à sa mère lorsque celle-ci avait été invitée à passer le week-end de la Pentecôte dans le domaine de la famille de Klaus, dans la campagne wallonne.
« Je veux rentrer avec toi à Genève, maman »,
lui avait confié Anastasia au cours d'une promenade. Olga s'était offusquée.
« Enfin, tu ne vas pas quitter Klaus !»«
Je ne me sens pas bien avec lui. » Je me sens coincé à Bruxelles. Ce n'est pas du tout la vie que je voulais.
Pas la vie que tu voulais ? Qu'est-ce que tu voudrais de plus, enfin ?
Être aimé.
Allons, ma fille, Klaus t'aime beaucoup.
Bats-toi pour ton couple.
Tu imagines tout plaquer comme ça ? Tu ne veux quand même pas me faire honte devant les parents de Klaus ? Allez, hop, Kopfhocht ! Donne-toi l'été pour arranger les choses.
Dans le petit café désert de Bruxelles, après avoir recueilli les confidences d'Anastasia, Lev conclut « Au fond, tu m'as appelé moi parce que personne d'autre ne voulait t'aider.
Je t'ai appelé toi parce que tu es la seule personne avec qui je veux être, Lev. Nous sommes faits l'un pour l'autre. En l'entendant prononcer ces mots, ses yeux s'illuminèrent un instant, mais il se rembrunit aussitôt. « Si tu le pensais vraiment, tu ne serais pas parti avec Klaus, » dit-il froidement. « J'ai eu tort, » admit-elle. « J'avais besoin de partir de chez moi. J'étais attiré par l'idée de la liberté. »
« Tu es surtout attiré par l'argent. »
« Comment peux-tu dire une chose pareille? Au fond, tu ne me connais pas. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. » « Je n'ai rien à t'offrir, Anastasia. Je suis qu'un employé d'hôtel. Emmène-moi à Verbier. Nous serons heureux là-bas. »
« Impossible. J'ai promis au directeur que je ne te logerai pas dans ma chambrette à l'hôtel. Le règlement du personnel l'interdit d'ailleurs. »
« Alors qu'il m'engage comme femme de chambre ?»«
Tu ne serais pas heureuse. »«
Je serai très heureuse, » assura-t-elle. « C'est avec toi que je veux passer le reste de ma vie. Avec toi, je serai très heureuse. Le reste n'a aucune importance. »
Après une hésitation, Lev confia à Anastasia. « Monsieur Rose, le directeur du palace de Verbier, dit que je pourrais le remplacer. Tu pourrais être directrice à mes côtés. » Le visage d'Anastasia s'illumina.
« Oh Lev, ce serait merveilleux. Je nous vois déjà diriger cet hôtel ensemble. Promets-moi que c'est ce que nous ferons. C'est exactement la vie dont je rêve. Promets-moi, Lev.
Je te le promets. » À la table de ce petit café de Bruxelles, ils rêvèrent à leur vie future, s'imaginant les nouvelles orientations qu'ils donneraient au palace et se promettant une vie paisible à la montagne, à l'abri de tout, dans les paysages fabuleux de verdure l'été et de neige l'hiver. Croyant leur destin scellé, ils quittèrent Bruxelles la tête pleine de projets d'avenir. Ils prirent la route en direction de Genève. Anastasia ne voulait pas retourner chez sa mère et décida de s'installer quelque temps chez les Ebesner. « Tu verras, » dit-elle à Lev. « Macaire, le fils, est vraiment très gentil. La maison de ses parents est immense. Il m'a toujours dit que je pouvais y rester en cas de besoin. »
Il préviendrait Macaire en chemin.
Lev retournerait ensuite à Verbier et annoncerait à M. Rose qu'il acceptait sa proposition de lui succéder. Il lui demanderait d'engager Anastasia. Elle se formerait à tous les postes, commis de cuisine, serveuse, maître de rang, concierge, femme de chambre, gouvernante. « Il n'existe pas de meilleure formation que le terrain », affirmait M. Rose. C'était la fin d'après-midi lorsque Lev et Anastasia arrivèrent à Collonges-Bellerive, dans la campagne genevoise, où vivaient les Ebesner. Jusque-là, Lev ne connaissait les Ebesner que pour les avoir servis au palace de Verbier. En passant le portail de leur propriété du bord du lac Léman, il fut d'abord intimidé. Une longue allée de tilleuls centenaires menait à une maison de maître dominant un parc au gazon parfaitement entretenu qui se terminait par une petite plage privée. Macaire les accueillit avec bienveillance, et Lev éprouva aussitôt de la sympathie pour ce jeune homme attachant à qui il confia Anastasia. Lev s'apprêtait à repartir immédiatement pour Verbier, mais Macaire le retint. « Tu as l'air épuisé, Lev, » dit-il. « Je n'ai pas dormi depuis 36 heures. Ne prends pas la route et reste pour la nuit. » Lev accepta. C'est ainsi que, ce soir-là, il fit la connaissance d'Abel et Marianne Ebesner, les parents de Macaire. Ils dînèrent tous ensemble sur la grande terrasse devant la maison. Lev découvrit un Abel Ebesner moins sévère et plus affable que l'image qu'il avait gardée de lui lors de ses passages au palace. Anastasia semblait bien connaître les parents Ebesner. Elle leur raconta ce qui s'était passé à Bruxelles. Abel ne décolérait pas qu'elle ait été ainsi maltraitée.
« Je connais bien le père de Klaus, » dit-il. « Je vais tout lui raconter. »«
Non, s'il vous plaît, monsieur Ebesner, je veux tout oublier. Je veux laisser ça derrière moi. »
« En tout cas, une chance que Lev soit venu à ta rescousse. À la première gifle, tu aurais dû appeler la police et ficher le camp. »
« Au début, Klaus me jurait que cela ne se reproduirait plus, » expliqua Anastasia. « Il disait sans cesse qu'il m'aimait. »«
Quand on aime, on ne frappe pas, » objecta Abel.
« Ma mère m'aime et m'a déjà frappé, » fit remarquer Anastasia.
Marianne Ebesner s'offusqua d'un tel propos.
« En tout cas, ma chérie, tu peux rester autant que tu le souhaites chez nous, » dit-elle. « Ne te fais aucun souci. »
« Merci, » lui sourit tristement Anastasia, reconnaissante.
Abel Ebesner, déjà impressionné par Lev qui était parti en voiture arracher Anastasia des griffes de Klaus, fut frappé par l'intelligence du jeune homme. Il était habitué aux conversations mornes avec son fils Macaire, qui travaillait au sein de la banque sans entrain, ou alors au bavardage insupportable de cet imbécile de cousin Jean-Bénédicte, toujours fourré chez eux, et dont il voyait d'un mauvais œil l'accès tôt ou tard au conseil de la banque par droit héréditaire. Il fréquentait aussi les jeunes cadres de la banque, dont les dents rayaient le plancher, toujours à vous lécher les bottes et toujours prête à vous planter un couteau dans le dos. Lev, lui, était différent de tout ce qu'il avait connu. Aussi brillant que désinvolte, d'une réelle culture avec la fibre d'un financier. Abel en eut la confirmation lorsqu'il quitta la table pour aller passer un coup de téléphone.
« Si vous voulez bien m'excuser un instant, » dit-il en se levant, « le marché va bientôt fermer et je voudrais savoir où en est le cours du dollar. »
« Ne vendez surtout pas vos dollars, » se permit de suggérer Lev. « Le cours a probablement monté contre toutes les devises. La réserve fédérale américaine n'aura pas injecté de nouvelles liquidités dans le marché. »
« Au contraire, » intervint Macaire, « il était plus que probable qu'elle le fasse. Nous avons conseillé à nos clients de vendre leurs dollars avant que le cours ne baisse. »
« Ce n'était sans doute pas une mauvaise opération pour eux, » considéra Lev, « mais ils auraient gagné de l'argent en restant investis en dollars. »
« Puisque je te dis que le cours a baissé, » répéta Macaire, légèrement irrité, « c'est l'avis unanime de nos analystes. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, crois-moi. »
Lev haussa les épaules. « Si tu le dis, c'est toi le banquier après tout. »
Lorsqu'Abel et Besnay revinrent de son coup de fil, il dévisagea Lev avec stupéfaction.
« Comment savais-tu ce qui allait se passer ? » demanda-t-il.
« Ça me paraissait logique. Les clients de l'hôtel m'ont demandé mon avis sur le sujet. J'ai donc analysé les indicateurs économiques des États-Unis au moment de la dernière injection de liquidités de la réserve fédérale. À cette époque, les données macroéconomiques étaient totalement différentes. J'en ai déduit qu'il était très improbable que la banque centrale décide d'intervenir dans le contexte actuel. »
« Tu conseilles des clients de l'hôtel ?»
s'étonna Abel et Besnay.
« Oui. Disons qu'ils me demandent mon avis pour leurs investissements. Et souvent, ils m'écoutent.
« Ton nom est Levovitch, tu m'as dit, c'est ça ? Tu parles russe ? » ?»«
Oui. »
« Anglais un peu aussi ?»«
Il parle au moins 10 langues couramment, » intervint Anastasia.
Abel et Besnay dévisagea Lev avec admiration.
« C'est quelqu'un comme toi dont j'aurais besoin à la banque, » dit-il.
« Je vous remercie, monsieur Besnay, mais je ne suis pas sûr de vouloir travailler dans une banque. »
Il eut envie de raconter Verbier et le palace, parler du projet qu'ils avaient avec Anastasia, mais il préféra ne rien dire. Après le dîner, Anastasia et lui firent une promenade dans la propriété. Il était tard, mais la nuit semblait ne pas vouloir tomber. Le ciel restait bleu encre. L'air était doux.
« Cet endroit est extraordinaire, » s'émerveilla Anastasia. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Regarde cette maison, ce parc, ce ponton privé. C'est le paradis. »
« Notre paradis, c'est Verbier, non ?» répondit Lev.
« Oui, mais ça pourrait être Genève. Et même, qui sait, dans une maison comme celle-ci.
Tu as fait une forte impression sur Abel et Besnay. Tu pourrais faire une grande carrière dans la banque. »
Elle poursuivit son chemin sans remarquer la mine déçue de Lev. Au moment de rentrer dans la maison, il prétexta une envie de cigarette pour rester dehors et être seul un moment. Il fuma sous la terrasse, ne dévoilant sa présence dans l'obscurité que par un mégot rougeoyant. C'est alors qu'Abel et Besnay apparurent, avec un verre de scotch dans chaque main. Il entendit un à Lev.
« Je bois ta santé, Lev, » dit Abel, « et au plaisir de t'avoir rencontré. »
« Merci, monsieur Besnay.
Appelle-moi Abel. »
Lev acquiesça et but une gorgée de scotch. Abel et Besnay poursuivit.
« Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier, Lev ? Tu ne vas pas porter des valises toute ta vie. »
« Je voudrais impressionner Anastasia. » répondit Lev.
Et qu'est-ce qui l'impressionne ?
Je n'en sais rien. L'argent, je crois. Anastasia rêverait de vivre dans une maison comme la vôtre, et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour réaliser ses rêves.
Abel sourit.
Tu as le potentiel d'un grand banquier, Lev. Crois-moi, j'en vois défiler tous les jours. Je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré quelqu'un de ta trempe. J'ai une idée. Pourquoi ne viendrais-tu pas faire un stage à la banque ? Tu pourrais voir si ça te plaît.
Il faudrait que je demande à mon père, répondit Lev après une hésitation.
Je peux aller le trouver et lui demander si tu veux.
Il ne vaut mieux pas, Abel. Mon père n'adore pas les banquiers. Maman est partie avec un banquier. Elle est morte dans un accident d'hélicoptère pendant qu'il faisait un tour de l'Italie.
Je suis désolé d'apprendre cela. Ton père est un homme bien.
Que fait-il ?
Il était comédien.
Maintenant, il travaille au palace de Verbier.
Il voudrait que je devienne acteur, moi aussi. Il dit que nous sommes une lignée.
Je n'ai jamais vu une lignée aussi nulle.
Abel éclata de rire.
Parle à ton père, suggéra-t-il à Lev. Convainc-le de te laisser venir travailler à Genève.